La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Allô tout le monde, bienvenue à cette édition de La Vie agricole. Mon nom est Michel Cloutier, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à chaque émission. Bonjour Izzy.
Bonjour Michel, ça va bien?
Ça va très bien.
Oui.
Aujourd'hui, on est avec les jeunes de l'Institut Jean Garon. Il y a Simon Bégin qui est là, Michel Saint-Pierre. Bienvenue, messieurs.
Bonjour Michel,
bonjour
Izzy.
Bonjour.
Et bonjour Simon.
Bon, et là, vous allez me parler des chutes du Niagara aujourd'hui.
Ben, pas tout à fait, quoique, effectivement, les gens ont dû entendre parler récemment de la ceinture verte en Ontario. On a vu monsieur le premier ministre Doug Ford empêtré dans un scandale.
Et, il y a même un petit ministre, même deux ministres.
Deux ministres qui ont dû démissionner. Alors, on parle de ce qu'on appelle la ceinture verte de l'Ontario.
Ah, OK.
Alors, c'est pas rien. Il n'y a pas de bretelles, non?
Non, c'est ça, mais la ceinture verte, on parle de quoi? On est dans le judo, là, ou...
Non, on est dans les belles terres agricoles, les zones agricoles. Au Québec, on a la loi de protection de terres agricoles. En Ontario, ils ont ce qu'ils ont appelé la ceinture verte. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On parle de 800 000 hectares. Ça a presque 400 km de long. Ça part quelque part dans l'est de l'Ontario, puis ça fait un grand fer à cheval, puis ça se termine dans la région du Niagara. Alors, on en parle parce que tout le monde l'a entendu parler de ce scandale-là. Le gouvernement de l'Ontario a voulu extraire de cette zone agricole 3000 hectares, c'est pas rien, supposément pour régler la crise du logement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment soulevé, hein, Michel, n'est-ce pas, une levée de boucliers assez impressionnante en Ontario. Des levées de boucliers qu'on a pu parfois voir au Québec dans certains dossiers agricoles, mais de cette ampleur-là, je ne pense pas. Il y a eu quelque chose comme 35 000 commentaires négatifs qui sont arrivés d'un coup là, sur la table du gouvernement. Tout ce qui peut s'appeler de municipalités, de groupes environnementaux, les Premières Nations, mettez-en. Tout le monde a dit non, vous ne faites pas ça. Et la goutte qui a fait déborder le vase, je crois, c'est que, à un moment donné, côté éthique, les gens se sont mis à fouiller dans le dossier. Et on
et à faire
vu
des liens.
Hein?
À faire des liens.
Oui, à faire des liens. Et on a vu que, c'est pas tout le monde qui avait eu la chance, une chance égale de se porter acquéreur de ces 3000 hectares-là. Il y a eu des petits copains qui semblent ressortir du dossier. Là, des petits copains qui ont eu l'information avant les autres ou eu des rencontres privilégiées. Et ce qui a déclenché un immense scandale. Alors, écoutez, nous, la question qu'on peut se poser, Michel, est-ce qu'il y aurait des leçons à tirer au Québec de ce qui s'est passé en Ontario avec leur territoire agricole? La situation est quand même différente ici.
Oui, la situation est différente. D'abord, peut-être juste une petite correction. Ce qu'on appelle ceinture verte en Ontario, c'est celle de Toronto, soit dit en passant.
Toronto
et sud là, de l'Ontario, ce sont des bandes qui donc ça a rien à voir avec la ceinture ronde qu'on s'imagine, qui existe effectivement à Ottawa par ailleurs, qui est une ceinture qui entoure la ville d'Ottawa et qui fait en sorte que cette zone-là, elle est protégée. Et si on veut faire des développements, c'est au-delà de cette zone-là. Donc, la zone protégée. Celle de l'Ontario, elle se présente plutôt comme
une grande bande
de terre de Toronto, celle de Toronto, qui a une valeur agricole très, très grande et pour laquelle il y a eu cette tentative-là. On n'a jamais vécu une tentative comme celle-là, surtout venant...
On a vu le ministre des Affaires municipales, Steve Clark, démissionner du côté de Queen's Park.
Ça part du premier ministre. C'est pas compliqué. Ouais. C'est le premier ministre, si on veut appeler les choses par leur nom, puis c'est Trump, qui ont décidé que ce serait peut-être intéressant d'en extraire une partie quand même assez considérable pour faire pas mal de développement immobilier, et avec une valeur au pied carré là, qui n'a plus rien à voir avec la valeur agricole.
Ça se met à doubler, à tripler.
Les chiffres qu'on a vus, c'était à te faire dresser les cheveux sur la tête.
Oh, oui.
Alors, si c'est arrivé au Québec, on aurait eu semblement. Ça n'arriverait pas de toute façon. Mais
si c'est arrivé, on aurait eu la même chose.
On aurait eu la même chose.
Rappelons-nous juste, vous allez me dire que c'est différent, mais quand on a voulu prendre le jardin zoologique de Québec et le convertir pour faire des condos, Il y en a qui ont pogné les deux minutes là aussi. Là. Voilà. Il y a des boucliers qui se sont levés en disant attention, on ne fait pas ça comme ça. Là.
On ne fait pas ça comme ça.
Ça ne s'est pas passé au Québec comme tel, mais il y a eu quand même, je me souviens, moi, du cas de Laval, il y a eu quand même une opération de dézonage. Ouais. Autour des années 1990, je pense, qui a fait jaser. Effectivement, là, on se souvient tous du maire Vaillancourt. Alors, disons qu'il y avait des petits relats, mais pas de l'ampleur de ce qu'on
a fait. Non, c'est différent.
Puis peut-être qu'on n'était pas encore, à ce moment-là, aussi, je dirais, allumé sur ce sujet-là qu'on l'est depuis.
Oui.
On parle.
Actuellement,
on en parle au Québec pour la refonte, la révision de cette loi-là, mais on fait le tour également en se disant 45 ans après, il y a quand même... On l'a protégé, ce territoire agricole-là. Là. On n'est plus à l'époque de l'empiètement là, des zones périurbaines où tout le monde construisait, puis c'était la foire aux développeurs. Là. C'est plus ça,
Michel, je vais te poser une question. Oui? La vérificatrice générale de l'Ontario a évalué la plus-value que pouvaient représenter les 3000 hectares en question pour les acquéreurs, les promoteurs qui avaient... Oui. Peux-tu me dire un chiffre?
De mémoire, je me souviens pas à quel moment. Mais je me demande si c'était pas un 3-4 fois la valeur initiale. Là, c'est pas plus.
Écoute, la valeur ajoutée était évaluée à 8,3 milliards.
Ouais. Milliards?
Pas des millions, des milliards.
Oui,
milliards.
8,3 milliards.
Quand on voit le potentiel d'enrichissement lié au territoire agricole, que ce soit en Ontario, aux États-Unis, n'importe où, on comprend le genre de pression qui peut s'exercer sur ces terres-là. Les terres nourricières, on en a besoin pour se nourrir. Mais hein, quand quelqu'un là, pense juste à l'argent, la peur, appelons ça comme ça, qu'on peut faire.
Exact.
Une terre agricole bien placée. Ouais.
Alors la pression sur... C'est ce que je veux dire, Michel, c'est que on devra toujours être d'une extrême vigilance pour notre territoire agricole.
Pour le protéger.
Compte tenu de l'enjeu, la pression énorme qui peut exister là-dessus.
Mais... Peut-être juste pour nous situer, là, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un mètre carré, c'est 10 pieds carrés. Alors, c'est comme ça qu'on peut dire.
En gros,
on peut dire que c'est ça, là. Oui, effectivement. Donc, 10 pieds... Parlons dans ce cas-là de 100 000 pieds carrés par hectare. Et là, tu y mets un chiffre, par exemple, le pied carré mais vaut 22 $ à titre d'exemple. Ça fait un sacré montant pour un hectare, ça. Puis c'est 3 000 hectares. Ça fait des gros chiffres avec beaucoup de zéros autour. Et puis c'est ça qui est arrivé avec son...
Mais là, le plan de prendre possession, il n'y avait pas d'autre option? C'était leur seule option?
Les experts qui ont examiné ça ont dit au gouvernement, oui, il y a d'autres options. Ils n'ont pas besoin d'aller là. Effectivement, tout ça mis ensemble fait que M. Ford, ce n'est pas son habitude. Le 22 septembre, il s'est présenté un peu l'air penaud devant les caméras. Je m'excuse, on n'aurait pas dû, on n'a pas bien fait ça. Et on annule tout ça. Alors, mais là, ça m'amène à une autre leçon qu'on peut tirer de ça. C'est l'importance de l'implication citoyenne dans ces grands enjeux-là. Ça ne serait pas arrivé, il n'y aurait pas eu de marche arrière si les citoyens ne s'étaient pas tenus debout. Au Québec, on a eu quelques exemples, je pense, Michel, aux terres des Sœurs de la Charité à Québec.
Ben oui, on était assez proches même,
associés
avec l'événement qui est celui qu'il y a eu aussi un retour en arrière, là, si on veut, là, un pas en arrière, parce que ces terres-là avaient été vendues à un développeur qui avait un projet pour construire, dans le fond, un mini-quartier, si on veut. Les pressions populaire, là, de différents groupes, là, beaucoup de monde. On a parlé, on dit protégeons ces 200 quelques hectares, 200, pas beaucoup, 200, 200, ouais. 200 quelques hectares, protégeons-les parce que d'abord, ce sont il y a une valeur d'une part historique. Elles ont été cultivées, historiquement depuis toujours. Elles ont nourri l'institut qui était à l'époque l'institut psychiatrique, nourri et amené des gens aussi à réintégrer le marché du travail. Il y a toute une histoire. Mais aussi, c'est un territoire agricole qui était considéré comme tel. Oh, donc, il y a eu retour.
Évidemment, qui est tout à fait unique, parce que c'est le seul terrain agricole qui se retrouve au cœur de la ville.
Oui. Dans la zone urbaine.
Mais moi, plein cœur de la ville.
Ça me fait penser à un cas en particulier que j'ai vécu dans ma ville, que je ne nommerai pas. Il restait une zone agricole qui était située au centre de la ville. Puis je parle d'une ville qui est en banlieue. On n'est pas au cœur d'une ville, on est en banlieue. Et elle a été dézonée et elle est devenue justement pour construire des maisons éventuellement. Et puis, bien honnêtement, on en a en masse des maisons puis des développements. Il y a même des secteurs, en fait, où les terrains, il n'y a aucune construction encore d'effectuer dessus. Comment on réagit à ça? Comment on fait? Parce que, et quelle est la valeur, justement, de cette terre agricole qui a été complètement dézonée? Est-ce qu'ils ont bien fait, pas bien fait? Et dans tout ça, c'est la question que je me pose au niveau de ma petite ville qu'on a dézonée.
On ne connaît peut-être pas suffisamment les espaces disponibles.
Ouais.
C'est sûr qu'il y en a qui sont protégés pour des raisons, par exemple, de parcs industriels. Ils sont contigus et tout et tout. Mais on ne connaît pas beaucoup les espaces. Et je pense, un exemple, nommé Ville de Laval. Ville de Laval, c'est quand même une ville banlieue. Là, il y a un centre-ville aussi, des activités, c'est pas juste résidentiel, mais il reste que c'est d'abord et avant tout une grande banlieue de Montréal et pour laquelle il y a sur ce territoire-là des lopins de terre, des espaces encore disponibles. Certains sont en agriculture en attente de développement. Alors, je mets ça entre guillemets, ce qui veut dire...
Ils vont être dézonés éventuellement.
On ne sait pas.
Les propriétaires l'espèrent.
Voudraient ça.
D'accord.
Voudraient qu'avec le temps, on puisse dire, en somme... Ça fait tellement longtemps, on devrait le dézoner, ça n'a pas été. Mais là, c'est un peu à l'usure. Là.
C'est ça, mais à force de faire ça, justement, on ne va pas perdre justement des terres qui sont...
Effectivement. Écoute, la solution facile pour une ville, c'est de regarder le territoire agricole qui l'entoure. Ah, c'est des belles terres, des eaux qui sont planches, qui sont faciles à développer. Ce qu'une des choses qui devrait ressortir des consultations en cours, c'est nécessaire de mieux équiper les villes pour qu'ils aient les outils pour mieux identifier le potentiel de développement dans leur territoire. C'est plus difficile, ça demande des efforts, ça demande de la réflexion. C'est plus contraignant que de simplement s'étendre. Mais c'est ça qu'on doit faire. Et une des choses qui devrait ressortir de la consultation, c'est mieux équiper les villes, aider les villes à identifier dans leur propre territoire le potentiel qu'ils ont et que souvent ils ignorent. C'est sûr qu'un terrain au centre-ville ou près du centre-ville va coûter plus cher que... un terrain en banlieue. Mais on est rendu là au Québec. On ne peut plus se permettre cette extension.
Non, c'est ça exactement. Urbain. Parce que je comprends que pour une ville, de dézoner une zone agricole et puis que ça devient justement un secteur résidentiel, c'est sûr que pour une ville, ben, c'est de l'argent de plus qui va rentrer parce que c'est des taxes.
C'est plus facile que d'aller fouiller dans le territoire.
Mais c'est ça, tu sais, de ce que je comprends, des conversations qu'on a dans la quotidienne depuis quelques semaines déjà, tu sais, je comprends que les zones agricoles sont... encore plus importante aujourd'hui qu'elles l'ont déjà été. Avant, c'était un peu, ça allait de soi, on a des terres agricoles, puis ça. Mais on dirait qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'urgence de protéger tous ces lieux-là.
C'est vrai. C'est vrai. Et il faut comprendre que dans toute cette toile de fond-là, il y a la problématique de la fiscalité municipale. Les municipalités disent, bien là, écoutez, si vous voulez qu'on ait des revenus pour payer l'aréna, puis la piscine, et tout, bien là, laissez-nous construire. Donc, ça prend... Les revenus sont fiscaux, sont des revenus de taxes municipales.
Oui, c'est ça.
Donc, ça remet en question tout ça, et on la pose souvent la question, est-ce qu'on peut revoir le mode de financement des municipalités? Je pense que ce serait intéressant de le faire.
Alors, écoutez, je pense que... La grande leçon, on peut peut-être lever notre chapeau aux citoyens de l'Ontario qui sont tenus debout, qui ont réagi, qui n'ont pas laissé faire. Ils s'en faisaient passer une, là, et ils ont vu clair et ils ont réagi. Et bon, chapeau aussi au gouvernement. Il n'y a peut-être pas eu le choix.
Mais ils n'ont pas eu le choix.
Il a pris la bonne décision de reculer puis de retourner à la planche à dessin.
C'est intéressant peut-être de suivre l'actualité les prochains jours. Il devrait y avoir un document qui est le deuxième fascicule.
Oui.
Qui nous amène à avoir... Ce deuxième fascicule-là porte essentiellement sur l'usage qu'on fait du territoire agricole. Ce portrait-là, qui aurait été essentiel n'importe quand, on ne l'a jamais eu. On n'a jamais eu le portrait de notre toile, une sorte de vue
d'ensemble.
De l'ensemble de notre territoire agricole. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on compte beaucoup dessus. Sur ce document-là.
Puis dans plusieurs régions du Québec, il y a quand même eu une dévitalisation de certains territoires urbains. Donc, il y a bien des municipalités qui ont comme du rattrapage à faire sur les zones urbaines actuelles avant de toucher au territoire agricole. Est-ce qu'il y en a qui sont tentés de pour toutes sortes de raisons, de facilité d'aller vers des terres agricoles plutôt que de récupérer des terres urbaines qui ont été laissées un peu à l'abandon?
Ben, souvent, ces terres-là, d'abord, sont vastes et faciles à identifier. Oui. Hein? T'es pas obligé de faire de découpage.
Oui, puis sans prêter de mauvaises intentions, des fois, ça peut être un petit peu plus facile que de récupérer l'ancienne terre de la station-service qui, elle, a peut-être besoin de...
besoin qu'on creuse un peu pour enlever le sol contaminé. Tout à fait.
Exact.
C'est ça.
On fait une pause, on revient dans un instant.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélil, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Nous voilà de retour à cette émission de La Quotidienne, toujours en compagnie des gens de l'Institut Michel Saint-Pierre et Simon Bégin, Isile Lévesque avec ma co-animatrice, avec nous en studio. Tantôt, on a parlé du territoire agricole, on s'en va tout à fait ailleurs, on s'en va parler de batteries, entre autres le fameux projet Northvolt, dans lequel on a vu, entre autres, le gouvernement du Québec mettre 2,9 milliards et Ottawa 4,4 milliards pour un projet de l'avenir. Monsieur Legault a même... comparer ça au grand projet de la baie James de l'époque de Robert Bourassa. En tout cas, moi, personnellement, il y a un petit peu de chemin à faire pour me convaincre, là, mais on va aller voir comment nos amis de l'Institut voient ça.
Ben oui, Michel, écoute, tu l'as mentionné, ce fameux projet Northvolt. Quand on regarde la couverture de presse, globalement, on peut dire que c'est assez bien reçu. Hein? Oui, il faut aller de l'avant, la voiture électrique.
3000 emplois.
Et puis la lutte au changement climatique. Mmh. Bon, ben c'est très intéressant. Mais il y avait quand même des petits bémols. Hey, 7 milliards de fonds publics.
Exact.
On n'en manque pas en éducation, on n'en manque pas en santé.
C'est l'argent du troisième lien qu'ils ont mis là.
aussi, ben, les gens ont souligné un manque de transparence.
Tant qu'il en reste trois pour autre chose.
Oui, c'est ça. L'une des grandes questions aussi, ben, c'est le fun de dire qu'il va y avoir 3000 emplois, mais en pleine pénurie de main-d'œuvre, est-ce que c'est une si grande bonne nouvelle que ça, 3000 emplois?
On nous dit que le niveau de salaire qui vont être offerts là vont attirer.
Beaucoup de gens.
Ben, peut-être qu'ils vont venir d'autres entreprises.
Ben, c'est ça, là.
Il y a un problème.
Mais là, ce que nous, on voudrait regarder ce matin, c'est est-ce que tout ce développement-là de la filière batterie, la filière électrique renouvelable, est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'on doit se poser des questions en ce qui a trait au territoire agricole? Bon, si on prend le projet Northvolt lui-même, en sa face même, non. Il n'y a pas d'empiètement sur le terrain agricole. L'usine va être sur une ancienne zone industrielle abandonnée. Puis c'est une excellente chose que cette zone-là reprenne vie.
Probablement partiellement.
Mais il y a peut-être quand même des questions à se poser sur qu'est-ce que ça va créer comme pression. Tu l'as mentionné, 3000 emplois. Il faut pouvoir loger ces gens-là.
Exact.
Alors, ça va faire une pression accrue sur le besoin de logement. Donc, on les met où? Il y a aussi peut-être une éventuelle phase 2. Là. Il y en a déjà question. Quelques centaines d'hectares auraient déjà été acquis. Mais cette zone-là où il se trouve, Northvolt, c'est entouré des plus belles terres agricoles au Québec, quasiment. Oh. On est en plein cœur de la plaine du Saint-Laurent. Et aussi, quand il y a une usine comme ça qui s'implante quelque part, il y a ce qu'on appelle une grappe autour. Là, des fournisseurs de composants.
Qui viennent s'installer à proximité.
Ils vont vouloir être proches. Donc, alors, il va y avoir certainement des pressions sur le territoire agricole qui vont découler de ce projet-là.
Et un questionnement, les batteries, là, on trouve que c'est écologique de les utiliser dans les voitures et tout ça, mais que connaît-on vraiment du procédure de fabrication de la batterie? Est-ce que quand on fabrique la batterie, on rejette des eaux usées, on rejette des déchets qui peuvent éventuellement être dans l'environnement à proximité de terres agricoles?
Bon, on n'en connaît probablement pas tous les détails. Non,
exact.
On sait que, par exemple, l'extraction de minerais amène quand même des effets secondaires, des effets pervers un peu. L'argument qu'on entend, qui est partiellement vrai certainement, c'est que la question des batteries, une fois que c'est fait, on est dans une certaine durabilité. On n'est pas dans, comme c'est le cas pour les carburants fossiles, dans l'émission constante. C'est comme si, OK, c'est vrai, mais ça arrête là. Une fois qu'on a la batterie, voilà, on fait des économies. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de questions à se poser. La question aussi qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on prend la chance de laisser passer et puis de rester les bras du corps en laissant tout le monde. L'Ontario serait bien contente là, que le Québec soit pas là, hein, ça soit sans passer. Ah ouais, L'Ontario serait d'autrement content. Eux autres sont dans le développement économique à fond de train, on l'a vu avec notre sujet antérieur. Le premier ministre Ford, lui-là, là, c'est table rase.
Dans le fond, je pense que, Michel, on n'est pas ici pour dénoncer ce projet-là.
Non, mais c'est on peut se questionner.
D'avoir, justement, en termes de transparence, d'avoir un portrait complet de ces implications. Là, une des inquiétudes, nous, Michel, tu nous as parlé tout à l'heure, on attend avec impatience le fascicule numéro 2 de la vaste consultation en cours sur la protection, la réforme de la loi de protection, qui est supposée nous dire qu'est-ce qu'on fait avec notre territoire. C'est beau le protéger, mais on le protège pourquoi? Qu'est-ce qu'on produit?
Oui, c'est
ça. Je sais que, Michel, à l'Institut, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont actuellement on utilise notre territoire agricole. On croit qu'il y a un manque de diversité. On est pas mal trop dans certaines productions et pas assez dans d'autres. Alors, est-ce qu'on répond vraiment à nos besoins? Est-ce que, comme tu le disais, Michel, dans une lettre célèbre, est-ce que le territoire agricole est vraiment notre garde-manger? On peut se poser la question.
On peut se poser la question aussi et on pourrait aussi dire quelle est la meilleure défense de notre territoire agricole, sinon son occupation dynamique? Plus on va l'occuper de façon dynamique, dans le sens de garde-manger, c'est ça l'argument que j'avais. Si on l'occupe en sens de garde-manger, on va être drôlement plus protecteur de notre garde-manger que d'un terrain vague qui a déjà servi à nourrir des vaches. Parce que le Québec, on le dit souvent, mais c'est 40% de notre territoire agricole qui n'est pas en exploitation. C'est pas rien, 40% d'un territoire qui est pas si grand que ça. Là. On n'est pas...
Et surtout, on sait qu'il y a déjà eu plus grand en exploitation. Là. L'agriculture était beaucoup plus...
On exploitait un peu partout, puis on était... Je dirais plus diversifié qu'on l'est devenu aujourd'hui. Alors, heureusement qu'il y a quelques endroits qui nous sauvent. Par exemple, en termes de diversité, comme les jardins de Napierville, pour lesquels il y a une belle gamme de produits, légumes qui sont faits là. Mais pour le reste...
On peut souhaiter, Michel, que sous les jardins de Napierville, il n'y a pas une mine de graphite ou de lithium. C'est ça un peu, parce qu'on parlait du fascicule numéro 2 qu'on attend avec impatience. On ne l'a pas eu encore, mais il y a un journaliste de Radio-Canada qui, semble-t-il, a pu mettre la main dessus la journée même où on annonçait la grande usine de Norvolt et qui soulignait les inquiétudes, semble-t-il, pas de n'importe qui, mais du ministère de l'Agriculture lui-même, face au développement de la filière batterie. Cette question-là, justement, que on sait que les gisements de minéraux nécessaires...
Sont souvent sur des terres agricoles.
Sont dans le sud du Québec. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand on va dire, ben là, on a une usine de batterie, mais il faudrait bien avoir le graphite ou le lithium qui est nécessaire pour les produire ces batteries-là. Mais c'est dommage, c'est en dessous d'une terre agricole.
Puis il y a aussi les sous-traitants, parce que une industrie amène forcément son lot de sous-traitants, qui sont des entreprises qui produisent, une composante très spécifique et qui, eux, doivent être logés pas très, très loin. Donc, c'est évident qu'un pôle industriel s'implique tout ça.
Et il y a une donnée qui a été rendue publique par ce fameux journaliste la semaine passée, qui indiquait que quand un projet minier demande une autorisation à la Commission de protection du torréfacteur
pour
explorer ou développer ou exploiter, la réponse est positive dans une proportion de 100 %. Alors, donc, il y avait... Peut-être que c'est une crainte non fondée, mais il y avait comme une petite lumière.
Non, mais il y a place à réfléchir là, avec ça.
Et comme on a vu, malheureusement, il n'y aura pas d'audience du BAP autour de ce projet-là, mais il va y avoir quand même des consultations publiques. Je pense que ça va être le temps, peut-être, pour les citoyens et les groupes intéressés d'aller poser des questions sur...
D'aller se lever,
quelles vont être les retombées positives, c'est sûr, il y en a des retombées positives. Puis, le Québec n'avait pas le choix, comme tu dis, Michel, d'aller là.
Non.
Mais il faudrait avoir le portrait complet.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Des conséquences.
Ce qui m'a fait sourire aussi, c'est la comparaison, enfin, l'image avec l'abbé James. Là, on dit « c'est comme ». Je voudrais dire, puis d'autres l'ont dit avant moi, que l'abbé James, ça appartient aux Québécois.
Exact. Et c'est
Norvolt appartient pas du tout.
Non, aux Québécois. C'est des Suédois, là. Ça veut dire que si demain matin, pour une raison quelconque, les gens de Norvolt décidaient peut-être pas demain matin, mais on sait que c'est le cas des fois au bout de 10, 15 ans d'opération, de dire on va aller partir la même usine dans un pays plus cheap labor, entre guillemets. Il n'y a rien qui pourrait véritablement les empêcher. Là.
Le pouvoir de décision n'est pas ici.
Alors que l'abbé James, c'est sûr qu'Hydro-Québec n'allait pas déménager en Floride ou à Mexico. Là,
comme plus vieux, je peux raconter une histoire. C'est que j'ai connu la naissance de GM à ce qu'on appelait à l'époque...
À Boisbriand?
On appelait ça Sainte-Thérèse à l'époque. Qui est devenu Boisbriand, les Anglais avaient de la misère, des Boisbriand, en tout cas. Mais cette usine-là, c'était l'annonce du siècle. Hein? Oui. On va faire nos Chevrolet puis nos Pontiac à Boisbriand et tout. Et l'usine était gigantesque. Et là, on était en 1967-68. Et puis là... Elle n'existe plus, l'usine. Elle n'existe plus, l'usine de GM.
Quelques subventions plus tard.
Décennies et beaucoup de subventions. Mais ça a créé... Oui, il y a eu une génération, probablement, qui a travaillé là-bas. Mais c'est, ça donne une idée que le projet du siècle...
Non, c'est
50 ans plus tard, n'est plus là.
Non, exactement. Donc, je pense que c'est une belle opportunité, ce que présente le gouvernement, mais il faut quand même rester réaliste qu'on ne peut pas comparer ça à un grand projet comme celui de l'abbé James, qui était un projet 100% québécois. C'était une usine québécoise. On se dit le Hydro-Québec se lance dans la fabrication de batteries, ça peut être d'autres choses.
Oui, absolument. Tout à fait. Exactement.
OK. Bien, ça complète l'émission de la quotidienne d'aujourd'hui. Bonne journée, monsieur.
Déjà.
Ben, ça a passé vite.
Oui, ça passe vite. Bonne journée.
En bonne compagnie, ça passe toujours vite.
Et voilà.
Merci.